Pour soutenir la parole d'envoi de cette journée, je vous invite à écouter ou à trouver dans vos Bibles, si vous en avez avec vous, dans la première lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 3, les versets 8 à 17. 1 Pierre 3, 8, 17. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais il se retourne contre ceux qui font le mal. Qui vous fera du mal, si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur, avec respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Seigneur, guide-nous, sanctifie-nous, envoie-nous dans la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Vous avez certainement reconnu, frères et sœurs, dans le passage que nous venons d'entendre, un verset qui se retrouve dans la décision du synode de Sète. Si nous en avions encore besoin, en replaçant cette phrase dans son contexte, comme nous venons de le faire et sans la tronquer, il est facile de nous rendre compte que Pierre n'évoque la bénédiction que dans le cadre très précis d'un dialogue conflictuel d'une communauté chrétienne avec un entourage pas vraiment bienveillant, composé en partie de non-croyants. Il s'agit de rendre témoignage à notre espérance, afin qu'en voyant notre façon d'agir, ceux qui nous entourent rendent gloire à Dieu le jour où il reviendra. Pierre s'adresse à des chrétiens placés dans une situation d'hostilité à leur égard, et régulièrement, au long de sa lettre, il les encourage à la patience dans l'épreuve et à un comportement d'amour en réponse à la malveillance dont ils pourraient être les objets. Si nous sommes tous ici, c'est que nous sommes tous d'accord sur ce point. De même que nous sommes tous d'accord pour encourager notre Église à une lecture de la Bible dont le sérieux ne sera pas orienté vers la quête angoissée d'une plus grande audience dans la société, pour lutter contre l'érosion du nombre de nos membres, mais d'abord et avant tout par le désir de nous mettre toujours plus profondément à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire, afin que nous en rendions un témoignage toujours plus clair et plus convaincu. Nous sommes tous d'accord. Nous venons de voir que, au fond, c'était ni très long ni très compliqué de refaire ce raisonnement si nous avions besoin encore de nous convaincre ou d'en convaincre d'autres. Alors maintenant, il faut qu'on fasse très, très attention. Car nous courons un immense danger. Mais je crois que tout au long de cette journée, on a émergé la claire conscience. Arrivés là où ils en sont, les attestants ont face à eux une porte grande ouverte par laquelle ils peuvent se précipiter s'ils n'y prennent pas garde. Cette porte, c'est celle de l'autosatisfaction. En franchissant le seuil, nous risquons de devenir les premiers contenteurs de notre Église, des donneurs de leçons à l'égard de ceux qui ne pensent pas comme nous, des membres d'un parti qui, parce qu'ils veulent écouter celui qui est le chemin, la vérité et la vie, croient qu'ils constituent alors par eux-mêmes la seule voie possible, que ce sont eux qui ont raison et qu'ils se croient autorisés à rejeter les autres. Nous risquons ainsi de trahir l'Évangile que nous prétendons servir. S'il est vrai que nous voulons prendre la Bible au sérieux, s'il est vrai que nous croyons que la parole de Dieu peut jaillir de ce livre, sous l'action de l'Esprit-Saint, pour nous conduire sur les chemins de la vie éternelle et nous sanctifier en vue du témoignage à rendre à la sainteté de Dieu dans le monde, si nous pensons que Pierre était sérieux quand il s'adressait aux communautés à qui il écrivait, alors nous devons prendre très au sérieux le fait qu'il s'adresse désormais à nous. Tout ce que nous venons d'entendre, sœurs et frères, je crois que c'est pour nous. Par la bouche de Pierre, Dieu vient nous adresser sa parole. Par deux fois, dans le passage que nous avons entendu, Pierre cite le Premier Testament. Nous refusons de considérer certains passages de l'Ancien Testament comme obsolètes, au prétexte qu'ils ne correspondraient plus à ce que le monde a envie d'entendre. Nous croyons que le Christ est venu accomplir la loi dans son intégralité et non pas l'abolir, en allant jusqu'à la croix et en ressuscitant pour notre justification. Alors cela signifie que nous avons à reprendre au sérieux la lecture de l'intégralité du Premier et du Nouveau Testament. Pas seulement dans les passages concernant l'homosexualité ou la morale en général, mais aussi dans ce relatif à la justice sociale, à l'accueil de l'étranger, à la remise en cause de la notion de dette en économie, à la mise en question de notre rapport à l'argent dans l'Église, à la remise en cause de toute emprise technicienne sur notre monde et dans notre communauté, à la manière de gouverner nos assemblées à la suite de notre seul chef, qui est un roi dont l'autorité s'est révélée sur une croix, à la prise en compte d'une culture de la non-violence au sein de notre Église, tant dans ses prises de décision que dans ses structures institutionnelles. J'ai été personnellement très interpellé par ce que j'ai entendu ce matin, ce qui se passe en Suisse et en Belgique. Et j'en passe, parce qu'évidemment ce programme est vaste, trop vaste, utopique. Si c'est ce que nous pensons, frères et sœurs, rentrons chez nous, n'en parlons plus, parce que nous perdons notre temps. Bien sûr que c'est utopique, irréaliste et totalement voué à l'échec tant que nous pensons que cela repose sur nos propres forces. Mais la première des interpellations de l'Évangile, elle est là. C'est la grâce, rien de moins. C'est Dieu qui peut faire tout ça. C'est Dieu qui veut faire tout ça. À travers nous, en nous, pour peu que nous acceptions de nous laisser faire par lui, de nous mettre à son écoute. Beaucoup d'entre nous ont l'impression légitime, le sentiment très fort de se trouver dans des situations d'hostilité, peut-être même de persécution au sein de leur communauté locale. Beaucoup d'entre nous peuvent s'interroger sur la poursuite de leur chemin de foi au sein même de l'Église protestante unie. J'en suis conscient, je crois que nous en sommes tous conscients. Mais je pense qu'il est inutile de lancer parmi nous le concours de celui qui s'en est pris le plus plein la figure. C'est pour cela que je reçois ce passage de la lettre de Pierre, non pas comme un argument de démonstration pour aller faire la leçon aux autres, mais comme un enseignement que ce disciple du Christ veut me donner dans ma situation présente. C'est le fondement même du témoignage que nous rendrons à l'Évangile, au sein des assemblées que nous fréquentons. Réécoutons Pierre juste un instant. Ne rendez pas le mal pour le mal, l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien ? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ceux qui vous critiquent, qui critiquent votre bonne conduite en Christ, soient couverts de honte. Je n'ai évidemment absolument pas à me prononcer sur les statuts à titre personnel, mais il me semble que notre règlement intérieur, nous l'avons tout trouvé, frères et sœurs. Une ligne de conduite toute tracée. Voilà, je crois, ce dont les attestants ont à témoigner au sein de l'Église protestante unie. et pas en se considérant comme des super chrétiens, voire les seuls vrais chrétiens de cette Église, mais simplement parce que si nous voulons que notre Église soit témoin d'une parole vivante, de Dieu, appuyée sur une lecture attentive du texte biblique, il faut que ça commence par nous. Alors n'ayons pas peur. Élevons-nous pour recevoir de la part de Dieu la bénédiction qu'il veut voir reposer sur nos vies. Car oui, le Seigneur nous bénit et nous garde. Il nous appelle sur les sentiers de l'amour et de la sainteté. Il sera ainsi notre guide, car Dieu le Père est amour et lui seul est saint. Il nous envoie sur les chemins de l'humilité et de la fidélité. Il sera ainsi notre compagnon de chaque jour, car en Jésus le Fils, Dieu se montre doux et humble de cœur. Et Jésus-Christ est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le chef des rois de la terre. Il nous encourage à prendre les voies audacieuses des enfants de Dieu, car l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, allons en paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.